Bonjour, c'est vraiment un plaisir pour moi d'être là. C'est ma première visite à votre église. J'avais beaucoup entendu parler de vous, mais c'est vraiment un plaisir d'être là personnellement. Je m'appelle Hicham, voilà, comme je l'avais dit, je viens d'arrière-plan musulman. Mais Dieu, dans sa grâce, m'a sauvé il y a un peu plus que 13 ans en faisant mes études en France. Et tout de suite après, je suis parti en Angleterre pour faire une formation biblique. Et puis, je suis parti pour travailler avec une église comme stagiaire et après comme deuxième pasteur de l'église. Et ça fait 3 ans. Ma femme et moi et la famille que nous sommes en France. Je suis pasteur d'une église dans le sud de la France. Si je vous pose la question, quel est le but pour lequel l'apôtre Jean a écrit l'évangile de Jean? Que diriez-vous? Pourquoi Jean a-t-il écrit l'évangile de Jean? Pour que les gens croient, d'accord? Où est-ce que ça se trouve le verset? Voilà, ça c'est vers la fin. Il faut aller à la fin de l'évangile de Jean, où il est dit « Toutes ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie éternelle. » D'accord ? C'est le l'avant-dernier chapitre, l'avant-dernier verset du chapitre 20. Mais il y a un autre verset dans le chapitre 1 qui nous aide à voir, à comprendre qu'est-ce que l'apôtre Jean cherche à faire dans cet évangile. Si vous regardez le premier chapitre par exemple, si vous regardez le premier chapitre, verset 14, nous voyons ce que l'apôtre Jean est en train de nous dire. Vous vous rappelez le début de l'évangile, il nous a parlé de la parole qui est éternelle, qui était Dieu, qui était avec Dieu. Et puis, en arrivant au verset 14, il dit « Et la parole, en parlant de Christ, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu de Dieu. » Et dans un sens, c'est ce que l'apôtre Jean veut que nous voyions, c'est contempler la gloire du Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'en nous lisant cet évangile à n'importe quel endroit, il faut poser la question, ce passage, que dit-il au sujet de la gloire de Christ? D'accord? Qu'est-ce que je vois concernant la gloire de Christ dans ce passage? N'importe où vous lisez l'évangile. Et puis, le verset 16, après avoir dit qu'il a contemplé la gloire du Fils de Dieu, il dit au verset 16, « Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. » C'est-à-dire que quand Dieu ouvre tes yeux pour voir la gloire de Dieu, cette vision de la gloire de Dieu est comme un canal, un faisceau que Dieu utilise, et à travers ce faisceau, il y a la grâce de Dieu qui te vient de Dieu. Voilà la raison pour laquelle vous devez être en train de prier en ce moment. Seigneur, montre-nous la gloire de Christ dans le passage qui a été lu pour nous il y a quelques minutes. Parce que si tu ne vois pas la gloire de Christ, l'apôtre Jean est en train de dire, si tu ne vois pas la gloire de Christ, tu ne peux pas recevoir la grâce de Dieu dans un sens. Parce que cette vision est le canal, si je veux dire, le canal que Dieu utilise pour envoyer ses grâces dans la vie de ses enfants. Alors, dans le passage d'aujourd'hui, nous allons poser la même question, parce que c'est ce que l'apôtre Jean veut, que nous voyons la gloire de Dieu, que la grâce nous est donnée de Dieu, et que nous croyons que Christ, que Jésus est le Christ, il est le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie éternelle. Et ceci est confirmé par verset 11 du chapitre 2. Regardez, parce que c'est exactement ce que les disciples voyaient après le miracle dans les noces de Cana. Regardez verset 12, verset 11, chapitre 2. « Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles. » En fait, d'autres traductions, c'est « les premiers des signes que fit Jésus. Il manifesta sa gloire, vous voyez, il manifesta sa gloire et ses disciples crurent. La manifestation de la gloire, la vision de la gloire et la grâce est donnée de la part de Dieu. Alors, que voyez-vous quand vous lisez ce passage, l'histoire des noces à Cana et le changement de l'eau en vin? Quelle manifestation de la gloire de Christ voyons-nous dans cet incident? Et je vais vous montrer au moins trois manifestations de la gloire de Christ dans ce récit. Je sais que vous allez être frustrés parce que je ne vais pas mentionner d'autres choses que vous voyez. Par exemple, la quantité du vin. Il y avait tellement du vin, je ne vais rien dire à ce sujet-là. D'accord? Mais trois manifestations de la gloire de Christ dans ces noces. Troisièmement, nous allons voir la gloire de Jésus en tant que fils obéissant à son Père. Deuxièmement, nous allons voir la gloire de Christ en tant que purificateur ultime. Je vais expliquer ce que je veux dire par ça. Et troisièmement, nous allons voir la gloire de Christ en tant que l'époux qui pourvoit à nos besoins. Alors, premièrement, la gloire de Christ en tant que fils obéissant à son Père. Et ce que je veux dire par fils obéissant, c'est que Jésus, ici, il va exalter sa relation, sa filiation avec son Père céleste, au-dessus de sa relation avec Marie, sa mère terrestre. Alors, ce que j'appelle un fils obéissant, c'est le Fils de Dieu qui est parfaitement obéissant à son Père céleste. Sans doute Jésus était aussi obéissant parfaitement à ses parents, à Marie et Joseph. Mais ici, je parle de son obéissance parfaite à son Père céleste. Et les paroles de Jésus ici, la réponse qu'il va donner à Marie, sont intentionnellement choisis parce que certainement Jésus veut justement faire le point sur cette relation, cette obéissance parfaite qu'il a envers son Père céleste. Alors lisons les quatre premiers versets. Trois jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Le vin manque, c'est gênant, c'est une honte. Et puis, une approche est effectuée par Marie. Maintenant, pour comprendre la demande de Marie ici, il faut vraiment vous rappeler que Marie, pendant 30 ans, elle a gardé un secret dans son cœur. Marie, pendant 30 années, elle savait la vraie identité de Jésus. Elle savait qui il était. Vous vous rappelez quand l'ange Gabriel est venu vers elle et lui avait dit, « le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu, fils du Très-Haut. » Et quand les bergers, vous rappelez quand les bergers trouvèrent Marie et Joseph et le bébé Jésus dans la crèche, ils racontèrent tout ce qui leur avait été dit par les anges. Et puis tout de suite il est dit, Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et elle l'a fait pendant 30 ans. Alors Marie, elle connaissait qui était Jésus en réalité, et quand elle voyait le vin qui manquait, c'est comme si elle disait à Jésus, « Mais je sais qui tu es, mais montre à tout le monde qui tu es. Révèle ton identité à tous ceux qui sont présents, mais fais-le. » Mais Jésus répond, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » C'est une réponse surprenante, je la trouve vraiment. Une réponse surprenante, étonnante, de la bouche du Fils de Dieu à sa mère. Je pense que Jésus savait que sa réponse allait être étonnante, surprenante. Je pense que l'apôtre Jean savait que la réponse de notre Seigneur est tellement surprenante. Il y a beaucoup de commentateurs qui essayent de dire, mais c'était culturel en fait, au premier siècle, on n'appelait pas sa maman « maman ». Mais c'est vraiment n'importe quoi. Et bien sûr qu'on appelait « maman » « maman ». Jésus savait que sa réponse à sa maman de cette façon allait être surprenante comme réponse. Une réponse brutale, surprenante, mais pas irrespectueuse, parce qu'en lui, il n'y avait point de péché. Qu'y a-t-il entre moi et toi? Qu'y a-t-il? Je ne veux pas que tu mettes la pression sur moi. Pourquoi tu viens vers moi comme si tu as une autorité sur moi? Tu ne devrais pas venir vers moi de cette façon. Ce n'est pas ta place de faire appel à ma toute-puissance, me donner de l'ordre pour me donner un emploi du temps où je devrais révéler mon identité. C'est pas ton affaire, Marie, parce que je suis venu faire pas ta volonté, mais la volonté de mon Père céleste. Jésus certainement n'a pas approuvé l'approche de Marie. Femme, pourquoi fais-tu cela? Tu ne vois pas les choses comme je les vois? Et c'est pas toi qui prescris mon emploi du temps? Et ce qui est surprenant même plus, c'est que Marie n'est pas offensée par la réponse de Jésus envers elle. On ne voit pas que Marie continue à se plaindre ou dire à Jésus, mais pourquoi est-ce que tu me réponds de cette façon? Elle n'était pas offensée par la réponse de Jésus. Ce qui me surprend moi personnellement, c'est que, parce que vous voyez, Jésus après, il va donner cette réponse à Marie, mais il va quand même après, il va répondre à la demande de Marie. Et nous, on se demande, mais Jésus, si tu allais vraiment aller faire le miracle, si tu allais faire ce que Marie te demanderait, mais pourquoi est-ce que tu n'as pas dit, Marie, écoute, d'accord, je vais le faire, et faire le miracle, et voilà. Pourquoi est-ce que tu dis à Marie, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi, mon heure n'est pas encore venue? C'est surprenant. Pourquoi? Je pense que la raison est que Jésus avait le fardeau de rendre clair, pas seulement à Marie et ses frères et sœurs qui étaient fort probablement présents, mais à chacun de nous ce soir, cet après-midi, que à cause de qui il est, des relations physiques, des relations biologiques ne le contrôlent pas et ne l'obligent pas. Il n'y a pas un privilège d'être sa mère physique, son frère ou sa sœur physique. Pas de privilège pour être sauvé. La raison, c'est que Jésus était complètement dépendant de la volonté de son Père céleste et non pas de celle de sa mère. Laissez-moi vous montrer quelques versets qui vraiment montrent cette idée. Dans Jean chapitre 8, verset 28, voilà ce que Jésus dit. « Je ne fais rien de moi-même, mais je parle selon ce que le Père m'a enseigné. » Dans Jean chapitre 5, verset 19, « Le Fils, c'est Jésus qui parle, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. » En d'autres mots, Jésus dit, « Je suis lié, je suis dépendant, exclusivement, complètement, verticalement, de ce que l'étape suivante, de ce que mon emploi du temps devrait être. » Il y avait une hypothèse certainement au premier siècle où on pensait que être un frère biologique ou une mère physique de Marie a un privilège ou un plus pour être sauvé, un privilège spécial dans le salut. Vous vous rappelez un moment dans Luc 11 où tandis que Jésus il parlait, il y avait une femme qui est devant élevant la voix du milieu de la foule, elle dit à Jésus, « Heureux le sein qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. » Mais Jésus répondit, «
Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent.
Et c'est le même esprit dans Jean chapitre 2 quand il répond à sa mère. Ou bien dans Marc chapitre 3, verset 32, la foule était assise autour de lui, autour de Jésus. Et on lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. Jésus répondit, qui est ma mère et qui sont mes frères? Et puis jetant les regards sur ceux qui étaient assis devant, qui s'étaient assis tout autour de lui, et il dit, voici ma mère et mes frères. Et c'est l'erreur que Jésus cherchait à corriger. Je fais la volonté de mon Père et pas celle de ma mère. Je suis guidé, pas par la volonté de ma mère, mais je suis guidé complètement, totalement de la volonté de mon Père céleste. La gloire du Fils obéissant à son Père. Ils n'ont plus de vin, Marie dit. Prouve qui tu es, révèle ton identité, fais-le. Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Ta relation avec moi en tant que mère n'a rien de poids spécial dans mon ministère, Marie. Tu es une femme respectueuse, certainement, mais tu es une femme comme les autres. Et si tu vas venir vers moi, Marie, si tu vas venir vers moi, tu ne viens pas à travers une relation physique, mais tu viens par la foi, non par une relation familiale. Faisons une pause et réfléchissons à cela, parce qu'il y a une bonne nouvelle pour nous ici. Parce que tu vois, tu peux venir des pires des familles. Peut-être tu peux penser à l'attitude de ton père ou ta maman envers toi. Je ne connais pas la situation de chacun de vous. Mais Jésus, il dit ici, je ne vais même pas laisser ma mère prendre une position, une place spéciale. Une chose, je veux savoir. M'aimes-tu? M'acceptes-tu comme ton sauveur? Me fais-tu confiance? Mais de l'autre côté, si tu viens d'un foyer chrétien, c'est ton papa ou ta maman est chrétien ou les deux, ben rends grâce à Dieu pour ce privilège qu'il te donne. D'avoir vraiment ce privilège que je n'ai pas eu moi-même, d'être enseigné les voies de Dieu à l'âge très très jeune. Mais le fait que ton papa ou ta maman ou les deux sont chrétiens ne veut pas automatiquement dire que tu es chrétien. Jésus dit, si tu vas venir envers moi, il y a une autre façon. Tu viens par la foi. Tu viens par la foi. C'est par grâce, pas par race. Alors, premièrement, nous voyons la gloire du Fils obéissant à son Père céleste. Deuxième manifestation, c'est la gloire de Christ en tant que purificateur ultime. Et ce que je veux dire par là, c'est que Jésus, parce qu'il va quand même répondre à la demande de Marie, il va faire un miracle, mais Jésus va choisir d'utiliser des vases destinés aux purifications. C'était des vases destinés pas pour boire, mais pour la purification. Verset 5. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs, et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Vous voyez, c'était des vases pas pour puiser de l'eau pour boire, mais c'était des vases utilisés pour des rituels de purification. Et Jésus n'avait pas besoin de choisir ces vases. Il aurait pu choisir d'autres vases qui étaient certainement disponibles. Mais il choisit délibérément ces vases destinés à la purification
pour mettre le vin. Pourquoi? Pourquoi? Certainement parce que Jésus, il va donner une image sur la raison pour laquelle il était venu. Quand Jésus faisait des miracles, est-ce que vous pensez que Jésus, il marchait tout à coup, il dit, je vais juste impressionner les gens et je vais juste faire un miracle, je vais guérir cet homme. Est-ce que vous pensez que Jésus faisait des miracles juste pour faire un miracle? Loin de là. Quand Jésus faisait un miracle, c'était comme des poteaux indicateurs sur quelque chose. Quand Jésus faisait des miracles, c'était dans le but d'amener le futur, si je peux dire, au présent. Alors, quand Jésus rentre dans la piscine de Bethesda, il voit un homme paralytique. Il lui dit, veux-tu être guéri? Il le guérit. Pourquoi? Parce que Jésus est en train de dire, je vais vous montrer ce que le ciel va être pour mes enfants. Parce qu'au ciel, il n'y aura pas de maladie. À notre moment, il chasse les démons de quelqu'un. C'était un poteau indicateur, c'était un miracle qui pointe sur le fait qu'au ciel, il n'y aura pas de démons, il n'y aura pas de Satan. Et puis, quand il fait ce miracle, au Nos à Cana, il l'a fait parce qu'il veut montrer quelque chose. C'est un poteau indicateur. Pourquoi Jésus a-t-il utilisé ces vases destinés pour la purification? C'était pour attirer l'attention sur sa mort comme la purification ultime des péchés qui remplaçait éventuellement tous les rituels juifs pour la purification. Laissez-moi vous montrer, parce que peut-être on va dire, oh oui, c'est maintenant, où est-ce que tu vois ça? Ben, laissez-moi vous montrer, vous donner quelques pistes. Jésus répond à Marie, il dit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Et puis il ajoute, mon heure n'est pas encore venue. De quelle heure parle-t-il? De quelle heure parle-t-il? Tous les commentateurs, sans exception, sont d'accord que Jésus parle de l'heure de sa mort ici. Je vais vous donner quelques exemples, quelques versets dans l'évangile de Jean qui vous montrent que c'est l'heure de sa mort. Par exemple, dans Jean chapitre 7, verset 30, vous vous rappelez quand les chefs religieux cherchaient à arrêter Jésus? Il est dit, ils cherchaient donc à se saisir de lui. Et personne ne mit la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. Ou bien Jean chapitre 8, verset 20. Jésus dit ces paroles, enseignant dans le temple, au lieu où était le trésor, et personne ne le saisit parce que son heure n'était pas encore venue. Plus loin, dans Jean chapitre 12, verset 27, Jésus, vous rappelez, quand il est dans le jardin, juste la veille de sa mort, « Maintenant mon âme est troublée, et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure? Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. » Alors on est tous d'accord, tous les commentateurs sont d'accord, que l'heure laquelle Jésus parle, c'est l'heure de sa mort où finalement l'agneau de Dieu sera immolé, sera sacrifié sur la croix. L'heure où il allait ôter le péché du monde. Et ceci serait la purification ultime du péché. N'est-ce pas ce que l'apôtre Jean, le même auteur de cet évangile, il a dit dans sa première épître, il a dit, « Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur. Mais si nous confessons nos péchés, il est juste pour nous les pardonner. » Plus loin, il dit, « Et le sang de Jésus nous purifie ou nous lave de tout péché. » Et c'est ce que Jésus cherchait à faire comprendre aux gens en faisant le miracle. L'heure de ma mort et le résultat de ma mort n'est pas encore là, Marie. Je ne vais pas le faire maintenant, mais je vais vous donner une image, je vais vous donner une illustration, ce que je ferai quand je mourrai sur la croix. Et quels seraient les bénéfices de ma mort sur la croix. Alors Jésus demande aux serviteurs de prendre ces vases destinés à la purification, et vous pouvez imaginer la réaction des serviteurs quand Jésus leur demandait de prendre justement ces vases destinés à le rituel de purification. Il leur demande de remplir d'eau les vases destinés aux purifications. C'est pas par hasard, c'est pas un accident de la part de Jésus, c'est pas un accident de la part de Jean d'insister que c'était des vases utilisés pour la purification. Et Jésus dit, c'est ces vases que je vais utiliser parce que je vais vous enseigner quelque chose sur ma mission et sur ce que je ferai. Et ceci est certainement la deuxième manifestation de la gloire du Fils de Dieu. Il la manifeste en donnant un signe vivant de la signification de sa mort. Comment sa mort, son sang, son œuvre serait la purification finale, la purification ultime, décisive purification du péché. Alors que maintenant, plus besoin des rituels religieux pour être purifié, plus besoin des vases, plus besoin d'apporter des sacrifices pour être purifié. C'est fini. C'est ce que l'Épître aux Hébreux essaye de dire aux gens, les gens qui veulent retourner à ces rituels. Mais l'agneau est immolé, le sacrifice est donné, et le sang de Jésus purifie de tout péché. Il n'y a pas un autre moyen pour être purifié. Regardez avec moi, si vous avez vos Bibles, venez avec moi à Apocalypse chapitre 7, parce qu'on a une image justement de cette purification. Purification. Venez avec moi à Apocalypse chapitre 7 et verset 9. Apocalypse chapitre 7, verset 9. C'est le même auteur, l'apôtre Jean, qui a cette vision du ciel où il voyait des âmes des croyants qui sont morts et qui sont avec le Seigneur Jésus-Christ. Verset 9. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. De toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus des robes blanches et des palmes dans leurs mains. Verset 10. Et ils criaient d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et l'un des vieillards, verset 13, venez avec moi verset 13. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, « Ceux qui sont revêtus des robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus ?» Je lui dis, « Mon Seigneur, tu le sais. » Et il me dit, « Écoutez bien, ce sont ceux qui reviennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes. Ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. » D'autres traductions, ils ont été purifiés dans le sang de l'agneau. Et c'est ce que Jésus disait. Je suis venu afin que par ma mort sur la croix, vous soyez purifiés, lavés de vos péchés. Il n'y a pas un autre moyen pour avoir tes péchés pardonnés, lavés, purifiés. La gloire du Fils obéissant à son Père, la gloire d'un le seul purificateur du péché. Troisièmement et dernièrement, la gloire de Christ en tant qu'époux qui pourvoit à nos besoins. En tant qu'époux qui pourvoit à nos besoins. Est-ce que vous savez ce que Jean-Baptiste, ce que c'était les dernières paroles de Jean-Baptiste concernant son témoignage vis-à-vis Jésus?
Dans Jean chapitre 3, voici les dernières choses que nous avons dans la parole de Dieu, les dernières paroles de Jean-Baptiste concernant Jésus. Dans Jean chapitre 3, verset 29, voici ce que Jean-Baptiste disait en témoignant de Jésus. Jean chapitre 3, verset 29. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. D'accord ? En parlant de l'Église. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux, qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi, cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Je ne suis pas l'époux, Jean-Baptiste. Je suis seulement le témoin, mais il est l'époux. C'est la raison pour laquelle je suis heureux quand les gens le suivent et pas moi. Il est l'époux. C'est la raison pour laquelle il faut tourner vers lui, mais pas vers moi. Je suis seulement un témoin, un poteau indicateur. Les dernières paroles de Jean-Baptiste concernant Jésus, c'est que il est l'époux. Et le premier miracle que Jésus va faire, c'est prendre le rôle de l'époux qui va pourvoir pour le besoin des noces. Verset 9 et 10. Parce que ce que nous allons voir maintenant, c'est que dans le besoin, c'est pas le mari qui se marie dans les noces qui va pourvoir aux besoins des autres, mais c'est Jésus qui va répondre aux besoins. C'est Jésus qui va prendre le rôle de l'époux. Il va pourvoir aux besoins des invités ici. Verset 9. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux en pensant que c'était l'époux en fait qui a mis du vin dans les vases. Et puis il dit à l'époux, tu t'hommes, sers d'abord le bon vin, puis le moins bon après quand c'est enivré. C'est pas normal. Ce qu'on fait normalement, c'est qu'on donne du bon vin au début, et quand les gens boivent un peu de vin, ils arrivent au point, ils ne peuvent pas distinguer entre le bon vin et le mauvais vin, et c'est à ce moment-là qu'on leur donne du mauvais vin. Mais toi, tu fais le contraire. Tu fais le contraire. Et bien sûr, ils ont raté le point. C'était pas l'époux qui a fait cela, n'est-ce pas? L'époux dans ce mariage était tout simplement comme nous les maris, soyons honnêtes. Il a échoué, il n'a pas assuré qu'il y avait assez de vin pour tout le monde. Et entre parenthèses, il y a beaucoup de gens qui utilisent ce passage pour justifier de boire trop de vin. Je vous assure, je connais des chrétiens qui utilisent ce passage pour dire, mais c'est pas le problème, je peux boire tant que je veux, loin de là. Alors je ne suis pas en train de vous encourager de rentrer chez vous et de boire. Mais le point ici, le point principal à voir ici, c'est que c'était pas le mari qui a répondu aux besoins, c'était Jésus qui intervient et qui prend le rôle de l'époux dans ce mariage et il pourvoit aux besoins des autres. Parce que l'époux dans ce passage était tout simplement comme nous, soyons honnêtes les hommes, nous avons tous échoué dans notre responsabilité. Nous sommes juste des pécheurs sauvés par grâce, des époux pécheurs, et combien de fois nous avons laissé tomber nos femmes, n'est-ce pas? Et vous les femmes, peut-être ton mari t'a déçu d'une manière ou d'une autre, mais il y a un autre époux qui ne te décevra jamais, jamais. Et son vin ne s'arrêtera jamais, le vin de sa grâce, de sa bonté, de sa fidélité. Il ne faut jamais, pas de défaut en lui. Voyez-vous la gloire de Christ révélée dans cet incident, obéissant parfaitement à la volonté de son Père. Il n'est pas lié à sa relation physique terrestre.
mais il est verticalement obéissant à son Père céleste. Il est obéissant sans hésitation. Et là, nous voyons qu'il prend le rôle du mari qui pourvoit à tous nos besoins. Laissez-moi juste résumer, juste pour conclure. En tant que fils obéissant parfaitement, il n'est pas influencé par des liens familiaux. Les liens familiaux sont hors de propos. La foi qui compte, pas la famille. La grâce, pas la race. Deuxièmement, en tant que purificateur ultime, il n'est pas influencé par les rituels religieux pour avoir ses péchés pardonnés. C'est la raison pour laquelle j'espère que cette église ne pratique pas des rituels religieux pour avoir tes péchés pardonnés. C'est la raison pour laquelle nous ne le pratiquons pas chez nous, dans le sud. Il y a un seul moyen d'avoir tes péchés pardonnés, un seul moyen d'être pur, justifié devant Dieu. Lave ta robe dans le sang de l'agneau. Viens à lui. Vis en lui. Confie-toi en lui. Et troisièmement, en tant que époux pourvoyeur, il n'oublie jamais, jamais de donner à ses enfants, à son église, ce dont elle a besoin. Mon Dieu, Paul dit aux Philippiens, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Lui qui a tant aimé l'Église, son épouse, qui s'est livrée, qui l'a donné sa propre vie pour elle. Il ne lui retiendra rien de ce dont elle a besoin. Sa mort à notre place est merveilleuse. Son sang qui a coulé pour nous purifier de tout péché. Et j'aimerais juste conclure par un verset qui se trouve dans Apocalypse 19, verset 7. Apocalypse 19, verset 7. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée. Vous avez deviné la question que je vais laisser avec chacun de vous. Es-tu prêt à rencontrer l'époux? Comment être prêt? Laver ta robe dans le sang de l'agneau. As-tu reçu Jésus dans ta vie comme ce fils obéissant à son Père? Comme le seul purificateur parfait pour tes péchés? L'accepte-Dieu dans ta vie comme celui qui pourvoit à tous tes besoins. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous, avec l'apôtre Jean, nous pouvons dire cet après-midi, oui, nous contemplons ta gloire, la gloire comme le Fils obéissant à son Père. Et nous recevons grâce sur grâce. Seigneur, je veux te prier pour quiconque ne voit pas la gloire de Christ, que tu puisses te révéler à cette personne cet après-midi. Et pour nous, tes enfants, Seigneur, nous voulons te prier que tu renouvelles notre foi, que tu réveilles notre foi. Merci de ce que nous n'avons pas à t'offrir des sacrifices pour avoir le pardon de nos péchés, pas de rituel. Mais Seigneur, c'est par le sang de Jésus que nous pouvons avoir nos robes blanchies, nos vies purifiées. Reçois notre adoration, reçois notre louange. Tu es vraiment digne d'être adoré. Au nom de Jésus. Amen.